franceinter.fr.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, Gilles Gaillard. Dans ce monde hostile et menaçant, il arrive que des gens vous assènent des mots comme eschatologique, vitalisme ou paramnésie. Les perfides créatures agissent par le biais de déclarations, d'articles ou d'essais qui plongent les victimes dans une douloureuse confusion. Abordant ce problème avec un lettré charitable, il me fut conseillé de me procurer La Gourmandise du jour, un classique universitaire intitulé « Vocabulaire technique et critique de la philosophie » d'André Lalande, paru pour la première fois en 1902, réédité depuis au PUF. Alors même si je dois parfois l'utiliser pour comprendre certaines de ses propres définitions, ce lexique élucide de multiples énigmes langagières et offre un savoir précieux pour s'encanailler davantage avec le monde des idées. Il permet aussi de réduire les verbiages pompeux et a priori intimidants à ce qu'ils sont réellement, des baudruches bien habillées, et les mots plus familiers comme amour, mélancolie ou personnalité seront redécouverts avec l'intérêt d'un nouveau flirt. Pouvoir faire ses humanités seules parmi les livres est d'une grande consolation. Notre apothicaire de l'âme est une actrice qui a d'abord imprégné de son charme ébouriffant les planches du conservatoire de Bruxelles et les canaux de la télévision belge. Sur le petit écran français, dans une émission populaire qu'elle présentait, sa drôlerie était telle qu'on lui demanda de se réfréner un peu. Par la suite, heureusement, on la sollicita justement pour ce qu'on lui avait demandé de modérer. Le cinéma depuis la révèle avec grâce. Elle tourne sous la direction d'Anne Fontaine, d'Emmanuel Mouret, de David Moreau, Jean-Pierre Améris, récemment de Laurent Tirard et Paul Verhoeven. Prochainement, elle sera à l'affiche du second long-métrage de Justine Triet qui affirme être tombée sous le charme de la mélancolie de son regard. Je confirme. Bonjour Virginie Efira.
Bonjour.
Tout d'abord, je vais vous demander quelque chose de très intime.
Mon Dieu.
C'est le bruit de votre âme.
Tout simplement.
J'allais dire votre intérieur, mais ça devenait un peu trop.
Alors je vais faire ceci. C'est pas le bruit d'une petite chasse d'eau, hein. Si je vais tenter le bruit du silence. Non pas que mon âme soit muette, mais d'abord parce que j'ai un peu le trac, parce que j'aime bien votre émission.
Ah non, arrêtez, vous me flattez.
Mais non, c'est vrai. Parce que je l'écoute.
Vous avez bon goût.
Ensuite, parce que c'est toujours au moment où on tente de, on dit, alors, définis-toi, ou quel est le sentiment que tu as, vas-y, précise-le, que déjà il s'enfuit.
C'est vrai.
Et que dès qu'on essaye d'établir les contours de quelque chose, ça n'existe plus, quoi. Et puis parce qu'on se rencontre, voilà, là, et que c'est bien de ne pas se charger de trop de choses avant que quelque chose se passe, de ne pas placer de l'attente,
non, c'est
véritablement,
vrai.
Ou une pulsion déjà, enfin, de voir ce qui arrive.
Ouais, vous ne prenez pas trop de risques avec ce « ch ».
Pas trop.
Pas trop,
voilà.
Un petit peu, une promesse de quelque chose.
Voilà, c'est bien la promesse de quelque chose.
C'est vrai. Alors avant de nous enivrer de consolation, auscultons-vous, Virginie Efira, êtes-vous un être mélancolique ?
Non, je me définirais pas comme un être mélancolique, mais en proie, comme tous les êtres, pour le coup, je pense, à la mélancolie, oui.
Ça vient régulièrement ou ça vous laisse quand même quelques jours de répit ?
C'est pas quelque chose qu'on a. Oui, ça peut me laisser du répit. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on appelle. C'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme un puits, comme ça. Ouh, tiens, on tombe dedans. On sait pas trop. Et puis on pense qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Et il suffit parfois. D'une action. Enfin, je crois très fort à l'idée de l'action qui précède la pensée, quoi. Faire quelque chose. Ça peut être assez délicieux quand on n'est pas un être mélancolique. Être un être mélancolique, je crois que c'est quelque chose de parfois difficile.
C'est très difficile.
Et de lourd.
C'est très difficile. Mais... Je suis ravie d'être dans votre émission parce que je voulais en parler.
Mais si c'est plus sporadique comme rapport, c'est assez délicieux, quoi.
Et vous n'allez pas
c'est vraiment,
vous
vraiment, c'est une conscience du. C'est parce que parfois, il peut y avoir cette idée que je combats, qui est celle du vain.
Oui.
Ça, c'est la face sombre de la mélancolie. Enfin, je lis de la mélancolie, c'est le voyage des vies qu'on n'a pas eues, des choses qu'on a laissées derrière, des choses qui passent et tout ça.
Des rêveries, en fait.
Oui, ça, j'aime bien celle-là.
Mais c'est la définition littéraire de la mélancolie. C'est joli.
Voilà.
Dans le dictionnaire,
c'est la définition
musicale
qui est moins comique.
Hein. Ouais, celle-là, je la connais. Je,
ouais.
Je vous en parlerai une autre fois, sinon je n'aurai plus cette émission. Chers auditeurs, je vous annonce le sommaire dans quelques instants.
Si vous guérissez, vous n'avez plus de.
Ah non, mais c'est terrible.
C'est
mais
ça,
je suis menacée par la joie à chaque seconde de ma vie. C'est très dangereux ce qui se passe. Vous allez convoquer dans quelques instants la chanteuse italienne Patti Bravo, de la bande dessinée, David Hockney, Ettore Scola, votre frère, Nietzsche, Fitzgerald, des citations en pagaille, Burt Bacharach, Nick Drake, la comédienne Olivia Cote, Naples, Michel Pfeiffer et de la Poutargue, si on a le temps. Oui. Et c'est juste après Arnaud Florent Didier qui adapte Ride de Christopher Cross en chantant comme Daniel Balavoine. C'est le nouveau titre, le reste tu devines.
Il y aura des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Comme toujours, je crois que mon réveil me joue des tours. Alors je fonce, je cours. Oh, faudrait qu'on foute la paix. Mais quand je vois tout ce qui me reste comme boulot,
tout ce qui te reste
moi qui
boulot.
Rêve des plages blanches d'Ajaccio, d'un massage, d'une copine, et le reste tu devines. Mais dans mes rêves, des guitares couvrent les pleurs des enfants. Rien ne m'étonne, 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 m'étonne plus comme avant. Et quand je vois tout ce qui me reste comme boulot,
tout ce qui te reste,
quand je vois
boulot,
la pile de pages blanches sur le bureau, bah y'aura,
y'aura plein de plans où tu fais la belle, des couchers de soleil irréels, y'aura plein de cascades de bagnoles, un très bel hommage à Bagnol.
Il y aura plein de trucs comme ça. Il y aura plein de trucs que tu comprends pas. Évidemment, des références. Des tonnes de problèmes qu'on résoudra. Et puis même, même s'il n'y a pas tout ça. Et puis même, si on n'y arrive pas. Moi je te promets, il y aura des tonnes, des tonnes.
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes en compagnie de Virginie Efira.
Sei tu che non sei importante, Gianni. Per nessuno. Neppure per te stesso. Lo eri solo per me. Perché ero stupida. Come stanno i ragazzi?
Ma non lo so bene, credo. Fabrizio è andato via di casa e anche Donatella è partita per l'Inghilterra.
Sono contenta di averti visto. Ciao amore.
Ciao.
Coi tuoi rimorsi?
Ma no, guarda, proprio nessun rimorso.
Sì.
1974, La drôle et mélancolique satire sociale, Nous nous sommes tant aimés des Torres Cola, un film dans lequel Je t'aime se dit Ti voglio bene, je te veux du bien, je trouve ça très joli. Ah, oui. Et là, on entend Vittorio Gassman et son épouse défunte dans une caisse de voiture, sublime Giovanna Ralli. Et c'est votre film anti-spleen, Virginie Efira.
Ouais. D'abord parce que c'est l'Italie, puis c'est l'Italie avant Berlusconi. Alors il y a de la mélancolie profondément dans
partout.
Le film. C'est un film sur les amours qui passent, sur les idéaux qui passent.
Le temps qui passe.
Ouais. Mais il propose quelque chose de sublime. Il y a cette phrase, cette très grande phrase qui est dite à un moment, nous voulions changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changé. Et le film raconte malgré tout qu'on peut, non peut-être pas changer le monde évidemment, mais peut-être des fragments de ce monde-là. C'est l'histoire de ces trois hommes qui se sont rencontrés pendant la guerre, qui avaient des idéaux de bravoure, de courage communs. Sauf que le courage, c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Et après, ils sont en prise avec l'existence. Et puis, il y en a un qui va trahir ces idéaux-là de solidarité, d'humanisme par soif du pouvoir. L'autre, qui est l'intellectuel obsédé par Vittorio De Sica et Fellini, tout ça, et par narcissisme. Et puis le troisième, joué par Nino Manfredi, je ne me souviens plus du nom du personnage, qui est un personnage grandiose.
Antonio.
Oui, Antonio. Et Antonio va rester, certes, bousculé par la vie, parfois petit et tout ça, mais fidèle, complètement fidèle à ses idées, quoi. Avec cette idée de courage que je trouvais, qui, je trouve, est un remède à la mélancolie. Par courage, je veux dire, c'est la pensée en action. Et il y a cette très belle dernière scène. Enfin, il y a plein de sublimes scènes. D'abord, j'aime bien aussi parce que le film n'est pas que naturaliste et j'aime bien l'idée que. Enfin, d'abord, on parle de cinéma tout le temps, mais il y a plein d'idées de fiction. Il y a parfois plus de vérité dans une métaphore que dans une vérité filmée crûment, quoi. Mais il y a cette dernière scène où, en plus, le cinéaste Ettore Scola récompense ce personnage-là parce que c'est lui qui finit avec la femme
que tout le monde a essayé.
Et il termine avec elle, il se retrouve devant une école, ils font une sorte de manifestation assise et tout ça, et puis il regarde les deux autres qui sont là et qui parlent à sa femme, mais sans aucune jalousie, avec un regard d'une bienveillance extraordinaire. Et puis le film est assez, pour moi, très politique, quoi, dans tous les sens du terme,
oui,
parce qu'il
vraiment est
réellement, parce qu'il parle de positionnement politique, mais aussi sur celui du sentiment. Et puis il y a plein de films à l'intérieur de ce film-là. Là, vous avez passé un extrait de la femme de Vittorio Gassman et tout ça, qui est démente, quoi.
Ouais, elle porte un appareil dentaire gigantesque, elle est extraordinaire, elle met des cadres dans des cadres sur son mur,
oui.
Elle écrit un journal intime, enfin moi c'est mon personnage préféré.
On voudrait faire un film sur elle.
Ouais, vraiment.
Elle est pas à son avantage, ni intellectuellement, ni physiquement. Et puis Vittorio Gassman aussi, surtout parce que c'est la fille du grand patron et tout ça, va l'épouser et elle va l'aimer terriblement et elle va se construire la personnalité. Quand on se construit une personnalité, ça devient la nôtre, quoi. Donc elle va devenir d'abord très belle, son appareil dentaire, manger que des œufs en permanence avec des légumes, son assiette est d'une tristesse invraisemblable. Et elle va se croire être un personnage dans les films d'Antonioni, quoi, dans l'Ellipse, etc. Elle est très drôle, elle s'invente une culture, mais qu'elle a, elle lit, elle ne fait plus que lire des livres, elle fait tout pour lui plaire et ça ne marchera jamais. Jamais.
C'est terrible, mais c'est un film qu'il faut voir aussi. Vous y faisiez allusion, Virginie Efira, pour l'inventivité de la mise en scène.
Ah ouais.
Ils n'arrêtent pas de se figer après une pièce de théâtre qu'ils sont allés voir. Ils n'arrêtent pas de se figer. Et pendant que tout le monde est figé, il y en a un qui révèle ses pensées les plus intimes. C'est tellement joli, ça.
Ouais.
Si on pouvait le faire dans la vie,
oui.
C'est magnifique.
Ouais.
On reste en Italie.
Tu me fai girar, tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te.
Dans vos activités consolatoires, Virginie Fira, il y a le fait d'écouter de la variété italienne, que vous qualifiez de la seule variété populaire entraînante avec mélancolie. Là, on entend Bambola, la poupée, de Patti Bravo, un morceau de 68. En fait, vous appréciez les choses nimbées de mélancolie, parce que ça va revenir tout le temps pendant cette émission.
Oui, mais parce que je pense, enfin voilà, c'est cette chose difficile à faire, peut-être impossible, mais qu'il faudrait tenter de faire quand même, c'est de faire cohabiter deux idées qui seraient celles de dire « Ok, le monde est désespéré, oui, mais ne pas renoncer à vouloir le changer pour autant. » Et dès que ces deux choses, ces idées-là contraires sont comprises quelque part dans une œuvre d'art, par exemple une chanson, en plus dans une variété, enfin, là ça m'émeut terriblement, quoi. Comment être conscient et optimiste.
Vous venez de résumer Nietzsche et Fitzgerald en une seconde. Voilà, bravo. Ils nous rejoignent d'ailleurs dans un instant.
Elles arrivent.
Oui, ils arrivent. Il y a une autre chic occupation à laquelle vous vous adonnez. Oui. C'est la lecture de romans graphiques. Alors, vous nous avez cité Bastien Vivès, Alison Bechdel et David Mazzucchelli. Alors, un petit mot sur chaque. Bastien Vivès.
Oh, Bastien Vivès, c'est un génie, hein, vraiment. Vous le connaissez ?
Oui, il est très rigolo.
Ah ouais, c'est un super garçon. J'avais découvert Paulina d'abord. Je m'étais dit... Et après, je l'ai rencontré. Et quand j'ai lu Paulina, une histoire de danseuse classique et tout ça, c'était tellement précis, tellement gracieux. Parce qu'il sait que ce qui est magnifique, c'est aussi ce qui nous échappe, la non-maîtrise. C'est là la grâce, en fait.
Et il y a très peu de textes.
Oui. Il fait plein de choses. Hein. Il fait
il a blocs,
fait
des bandes dessinées
pornographiques, il a fait des trucs un peu manga, il y a des choses sans parole, ou presque, il y a...
Le goût du chlore.
Le goût du chlore, voilà. Le goût du chlore, qui raconte un truc très joli. D'abord, c'est tout se passe à la piscine municipale. Tout d'un coup, j'ai l'impression de dire un truc belge, là. Municipale, on dit ça, oui. Et d'un garçon qui doit aller dans cette piscine et rencontre une fille. Et leur rapport ne va être que sur l'un qui apprend à l'autre à nager, apprendre juste quelque chose à l'autre, rien de plus. Enfin, c'est vraiment très, très beau.
Alison Bechdel, c'est une militante américaine...
Féministe, lesbienne,
très engagée,
et qui est remontée aux origines, c'est-à-dire de la psychanalyse. Elle raconte dans un de ses livres la psychanalyse, etc., qu'elle a faite, etc., mais qui a fait un premier tome sur son père, qui s'appelle
Fun Home,
merci, et sur sa mère.
Are you my mother?
Ouais, parce que c'est toi ma maman. Ouais.
Oui, c'est moi.
Voilà. Ah, ok.
Oui.
Et, non, ce sont vraiment des grandes choses qui invitent à une réflexion sur soi très forte, beaucoup de drôlerie, de profondeur, enfin, oui. Et probablement que mon œuvre préférée de toutes, c'est Astérios Polype.
Incroyable. Ah, c'est un chef-d'œuvre, je l'ai lu pour l'émission.
Ah, vous l'avez lu pour l'émission,
ouais.
C'est génial.
C'est chez Casterman, c'est sublime.
Ah oui.
Il n'y a aucun trait noir, c'est que des couleurs, il y a des mises en scène incroyables, une liberté folle. Enfin, c'est fou.
Ah oui, c'est fou, hein. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose, le fond et la forme ne font qu'un.
C'est un objet d'art.
C'est un objet d'art, ah oui, complètement. Et puis, ça raconte... Enfin,
c'est l'histoire d'un architecte.
Oui, c'est l'histoire d'un architecte qui pense tout avoir, en tout cas, qui possède la parole, le pouvoir,
le succès,
une science très maîtrisée de son propre, de son art et du monde, qui aime beaucoup s'entendre, qui tombe amoureux d'une femme qui est un peu l'inverse de lui, quelqu'un qui évite la lumière, mais qui a une énorme douceur, et puis il se sépare, et c'est quelqu'un qui a tout et qui n'a plus rien, dans le sens où on l'entend, avoir tout, n'avoir rien, et qui l'a va peut-être enfin, au moment où il est dépossédé de tout, pouvoir enfin voir réellement quelque chose. Est-ce qu'on comprend ce que je viens de dire ? Et vraiment, c'est très bien raconté, ça.
Oui, c'est vraiment une découverte incroyable. Astérios Polype, de David Mazzucchelli.
Oui.
À lire absolument. Et ce qui est drôle, c'est que chez Vivès et Mazzucchelli, il y a une dimension ludique qu'on retrouve chez le peintre qui vous grise, Virginie Fira.
Is the current world crisis a distraction or a boon to inspiration? Inspiration... She never visits the lazy. Did you know that? Crises, of course, don't have any effect. They stimulate sometimes. Crises stimulate. And there's always a world crisis, if you notice. That's what I would think. There's always one.
L'artiste anglais David Hockney, en 2009, dans un documentaire réalisé par la Tate, c'est un documentaire où il répond à des questions qu'on lui pose sur Twitter. Et là, en fait, c'est « La crise du monde actuel a-t-elle une influence positive ou négative sur votre inspiration ?» Il dit que la crise peut être stimulante, que le monde a finalement toujours été en crise et que l'inspiration ne rend pas visite aux paresseux. C'est plutôt joli.
Oui, c'est joli. Alors, c'est étonnant d'ailleurs sur cette modernité, parce que là, vous me parlez de Twitter, mais ce qu'il a fait sur l'iPad, et etc.
Oui, il a fait des tableaux sur iPad et iPhone qu'il expose.
Oui, ça c'est fascinant.
Il a une œuvre très protéiforme, David Hockney. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui ?
Oh, ce que j'aime chez lui, c'est quand même d'abord, je pense, c'est quand même le paysage, l'espace, c'est la nature, c'est ces choses-là qui sont, comment dire, presque c'est du surclassicisme que de peindre un paysage ou c'est pérenne quoi, c'est tout le temps là et il arrive à installer quelque chose là-dedans d'un point de vue quand même de quelque chose de très moderne que j'aurais bien du mal à définir quand je vois ces paysages. Moi, franchement, je ressens quelque chose que je pourrais avoir en regardant un Van Gogh, hein, un Van Gogh, pardon. Il y a quelque chose aussi de très joyeux, même si toutes ces piscines et tout ça, c'est pour moi, c'est d'une mélancolie extrême. Je sais pas, moi, je ressens de l'ennui aussi. Enfin, il y a quelque chose qui à la fois m'attire et me, comme quand j'ai des grands désirs de vacances, de luxe comme ça, où je me dis ah ouais, ça doit être génial et je sais que je vais m'y emmerder, mais j'ai quand même très envie.
Bon, c'est un résumé étonnant de l'existence.
Puis parfois, c'est ces choses gigantesques, les couleurs, le rouge, le vert, l'apaisement qu'on peut ressentir en regardant ça.
Et en parlant de couleurs, il y a votre frère.
Oui.
C'est Yori Kefira, c'est ça?
C'est Yori Kefira, oui.
Il a beaucoup représenté Bruxelles, notamment.
Oui.
En peinture et en carton. Il a exposé en Belgique, en France et en Thaïlande. j'ai vu ça sur son site.
Ouais.
Et l'atmosphère, ce qui est fou, c'est que c'est presque, on dirait, une atmosphère imaginaire, onirique, alors qu'il représente des choses réelles.
Oui, tout à fait. C'est lui d'ailleurs, hein, qui, enfin, s'il écoute l'émission, il rigolera en m'entendant de parler d'Ockney. C'est lui qui me raconte, c'est lui qui me montre. Et il y a effectivement toujours quelque chose de très, bah, c'est figuratif, quoi. Voilà, c'est des choses qui existent et il y met son propre sentiment. Il fait des choses que je trouve très interpellantes et très, c'est des choses qui ont un impact immédiat. Et là encore, je pourrais dire ça pour Ockney aussi, quoi. Quelque chose
qui happe.
Oui, presque de sentimental, quoi. Je n'ai peut-être pas la culture ou l'éducation nécessaire pour, avec la peinture, dans mon rapport à la peinture, pour qu'il n'y ait pas cette chose où je dois être prise directement.
Mais vous avez l'essence nécessaire.
Peut-être, oui.
Mmh. Dans un instant, en tout cas, je vous rassure, on sera avec Nietzsche, un homme d'affaires zinzin et un alcoolique flamboyant. C'est juste après, à nouveau, une reprise, Buddy Holly, cette fois-ci, par Françoise Hardy et Dominique Blanc-Francard, une ancienne nouveauté, donc True Love Ways.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love wears. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry. Just you and I, no true love wears. Throughout the days, our true love wears. Will bring us joys to share with those who really care. And we'll know why, just you and I, no true love wears. No true love wears.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Virginie Efira. Il est temps d'aborder votre sérum littéraire. C'est une pièce de théâtre de l'écrivain et cinéaste autrichien Peter Handke, parue en 1974. Les gens déraisonnables sont en voie de disparition. Et ça commence par la mélancolie d'un chef d'entreprise.
Oui.
Vous êtes d'accord?
Je croyais que vous alliez tout raconter.
Ben non.
C'est là que je vous écoutais. Ouais, la mélancolie d'un chef d'entreprise et plus globalement la mélancolie du monde de l'argent et du consumérisme et de... je vais citer du Souchon carrément. Le monde
ah oui.
qu'on nous propose a des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ah, on nous fait voir que le bonheur, ça va. Bon, bref.
Ça, c'est convaincant. Si c'est du très Souchon, convaincant. C'est toujours convaincant.
Mais voilà, et c'est ce sentiment de ne pas posséder réellement sa propre existence, n'être jamais au moment présent, comme si les désirs qu'on pouvait avoir nous étaient déjà induits. Enfin, et c'est du coup, ça, pour le coup, c'est pas la petite mélancolie, c'est l'immense mélancolie. C'est même pas l'idée des vies que je n'ai pas traversées, c'est que la propre mienne, je ne la traverse pas vraiment.
Il y a une drôlerie aussi.
Le livre est vraiment extraordinaire. Bon, déjà, ce titre est incroyable, ouais. Les gens déraisonnables sont en voie de disparition. Moi, je l'ai découvert par une interview de Depardieu, qui en parlait.
Oui, mais puisqu'il a joué le rôle principal.
Et oui, mais ouais. Du coup, j'ai découvert que voilà. Et puis, il y essaie une phrase de Saint-Augustin que je trouvais très belle, qui était « Partout, je t'ai cherché, mais c'est en moi qu'il fallait que je cherche ». C'était pas ça la phrase de Saint-Augustin, mais c'est ça que ça voulait dire, pardon. Et ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, il y a une mélancolie profonde, il y a que des moments où c'est terriblement une farce, où les deux existent en même temps. Puis je trouve qu'ils évoquent parfois des concepts que je trouve très très prenants et justes sur l'absurdité, le côté vain de tout ça. Ils cherchent même pas parfois la métaphore, quoi. Ça l'est directement.
Parce qu'en fait, cette pièce, pour ceux qui ne l'auraient pas lue, c'est Quit, un chef d'entreprise un peu fantasque et désespéré, donc qui veut éliminer ses partenaires et concurrents. Ils se retrouvent tous. Il y a son confident aussi assez drôle, Hans,
ouais.
qui ne pense jamais par lui-même.
Ouais.
Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le héros, il veut mettre en scène sa mélancolie de façon grandiose, poétique et tout ça. Et en fait, il est gêné par la vulgarité du monde. À un moment, il parle d'une fille dans le tramway qui mange des frites derrière lui et ça lui gâche totalement sa mélancolie. Et il parle d'exploiter les sentiments à des fins commerciales.
Oui.
C'est assez déroutant comme texte.
Oui, oui, oui. Oui, il y a plein de moments comme ça dans cette pièce.
Il y a cette réflexion, à un moment, j'aimerais tellement être pathétique. Et puis, il y a une didascalie où on dit qu'un personnage prend l'attitude d'un kiwi. Alors, je ne sais pas si c'est le fruit ou l'animal, mais il y a des choses assez déroutantes.
Il y a des choses déroutantes.
C'est quand même sur l'impossibilité des choses, cette pièce.
Oui, pour moi, c'est vraiment sur l'argent, quoi, en fait. C'est sur le prémâché, quoi. Il y a un moment, c'est celui que je voulais lire. Donc
ah oui, lisez-nous un petit extrait.
Voilà. Je ne sais rien de moi d'avance. Mes expériences ne me reviennent que quand je raconte. L'unité ne résulte que de là. Je vais vous raconter ce que l'enfer est pour moi. L'enfer, c'est ce qui, comme on dit, est bon marché. Au cours d'une heure noire, je me suis égarée dans un restaurant où il y a sur la carte les mêmes plats que là où on voit d'habitude les gens comme moi. Seulement, c'était moins cher. Mais ce n'étaient pas les mêmes plats. La viande surgelée dans la poêle et rôtie jusqu'à l'inertie, les pommes précuites en début de semaine, les légumes, une masse retournée, debout, dans un liquide de conservation, la serviette en papier usé après qu'on s'est essuyé une seule fois la bouche, et en plus la nappe pleine d'électricité statique et sur laquelle les poils de mes doigts se sont mis à se dresser. Serré contre la table, parce qu'à côté et derrière moi, il y en avait d'autres, comme seul vu les vitres en cul de bouteilles devant lesquelles les plantes en pot oscillent au souffle de l'air chaud des radiateurs. Seule une vie dans le luxe n'est pas une punition, pensais-je. Seul le luxe le plus extrême est digne de l'homme. Ce qui est bon marché, c'est cela qui est inhumain. Alors là, évidemment, sur la définition du luxe, c'est pas le luxe comme on l'entend du 5 étoiles. Là, le luxe, ça serait comment on essaie de faire surgir la beauté quelque part. Le sentiment quelque part, et c'est lui sur l'impossibilité de faire émerger ce sentiment. Ça me fait penser à la différence entre là un repas qu'on ferait aujourd'hui avec qui a des intolérances et tout ça, cette espèce d'ennui pas possible et qui mange du gluten et qui n'en mange pas et cet individualisme du coup où il y a plus le partage ou le fast-food babette où tout d'un coup on en fait quelque chose, en faire quelque chose quoi.
C'est vrai.
Ouais, je sais.
Partageons
pas.
Partageons des spaghettis bolognaises immédiatement.
Ben oui, par exemple.
Bon, en voilà. Tout cas, les spaghettis bolognaises et les gens déraisonnables sont en voie de disparition de Peter Handke. Il faut le lire. J'ai découvert, oui. C'est burlesque, drôlatique et désespéré.
Oui.
Et
les gens déraisonnables, c'est aussi, sont en voie de disparition, c'est aussi, veut dire, ce serait comme la fin de l'étrangeté, la fin du subjectif. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout ce que je trouve assez beau, où il n'y a pas que la mélancolie, c'est quelqu'un qui le ressent terriblement, cette impossibilité-là à être.
En tout cas, bonne nouvelle, ça faisait longtemps que Nietzsche n'avait pas été cité dans cette émission, alors qu'il a été notre sponsor pendant plusieurs saisons. Et vous y avez remédié, Virginie Efira, en nous indiquant, comme onguent de l'âme, le fragment 312 du Voyageur et son ombre, texte publié en 1879, qui sera en 1888, vous vous en souvenez tous, incorporé à la seconde partie d'Humain trop humain. C'est « Les illusions sont certainement des plaisirs coûteux, mais la destruction des illusions est encore plus coûteuse. Vaut-il mieux vivre dans l'illusion ?»
Ça, j'en sais rien.
Oui, la réponse est oui.
Si on veut rester un peu dans le côté nietzschéen, on va pas dire qu'on sait quelque chose de manière sûre et certaine.
J'ai chuchoté quelque chose en cachette.
Moi, je sais que j'aime ça. Je me souviens. Je me souviens avant, quand je tombais amoureuse assez facilement et beaucoup. C'est assez joyeux d'ailleurs. C'est fatigant, mais c'était joyeux. On me disait, ça ne dure pas, c'est une illusion. Mais je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Puisque j'ai cette illusion, elle est là, elle me remplit totalement. Oui. Il y a un extrait qui est assez joli d'ailleurs, qui parle de ça dans les... Je reviens aux gens déraisonnables sans votre disparition, pardon, je fais un flashback, comme on dit.
Flashback.
Et où il parle du sentiment, et c'est parce qu'on faisait ça avec le sérieux, la patience et la conscience d'un restaurateur de tableaux que les sentiments finissaient vraiment par arriver, peut-être.
Quand on les feint,
on croyait que ce qu'on jouait existait vraiment, ou bien cela était possible. Voilà. Oui, c'est ça. C'est sur le fait de jouer quelque chose, et bien du coup, ça vous pénètre et ça devient ça.
Alors, faisons semblant.
Oui. Mais ce que je veux dire sur Nietzsche, c'est... Oh non, j'arrête pas de parler.
Mais si, c'est le but. Vous êtes invité dans cette émission pour parler.
Non, mais ce qui était joli aussi, c'est dans Le Voyageur et son ombre.
Il y a une autre idée qui vous console. Alors, c'est celle de l'absence de but précis. Alors, j'ai lu plein d'articles sur vous, Virginie Efira, des interviews. Apparemment, vous n'aimez pas l'immobilité, la stabilité. Alors, bonne nouvelle quand même, l'existence a été faite pour vous. Mais alors, en quoi ça vous console, cette idée de ne pas avoir de but précis? Ça
peut
être terrifiant aussi.
Parce que je trouve que c'est formidable l'errance, c'est-à-dire pas le voyage qui a un but, mais ce qui est délicieux, c'est de chercher. On le sait bien, tout à l'heure, vous m'avez demandé le bruit de mon âme. Je peux vous dire, je ne sais pas. Enfin, on va chercher à définir, mais de errer sans but et de trouver par hasard, là, c'est quelque chose de merveilleux, que de savoir exactement, c'est une disposition de l'âme. Enfin, les choses arrivent, il faut être juste comme une sorte de disponibilité de l'âme, pour le coup, de pouvoir les recevoir. Si on se dit, c'est absolument là que je veux arriver, je suis comédienne, moi j'aimerais bien réussir à faire ceci, mon Dieu, alors déjà, si je loupe mon but, ma vie est toute pourrie. Si je suis mue de cette curiosité, je sais que les choses qui arriveront, je pourrais les regarder de toute façon, même quelque chose un peu triste, je pourrais le regarder bien.
Comme autre appui, vous avez aussi choisi un adage que je livre aux auditeurs en musique.
À cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible, il est invincible toujours. Tout lui sourit, l'avenir et la gloire, le bonheur, la victoire et l'amour. Oui.
Nous continuons l'interview sur
ça,
des chevaux.
Ça, c'est mon côté américain. If you want it, you can do it.
Alors nous, on a choisi Marcel Malouart, qui n'est pas très américain, dans l'opérette Robert le Pirate, pour illustrer l'autre citation qui vous réconforte, Virginie Efira, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est la devise de Jacques Coeur, armateur et marchand français du XVe siècle, qui fut aussi, comme vous le savez, argentier du roi Louis VII.
Bien évidemment.
Le roi le plus connu de tous les rois de France. Louis VII, vous vous sentez vaillante au quotidien, ou c'est quelque chose qui se travaille?
Oh, moi, je crois que c'est quelque chose qui... travail, non, je ne sais pas. Bah, c'est toujours cette question, je crois qu'on y revient, c'est comment allier, c'est ça, le pessimisme de la clairvoyance ou de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté, quoi. C'est ça, vaillant, c'est se tomber, se relever, quoi. Je rigolais de moi-même, parce que rien n'est possible, je trouve que, c'est pas du tout américain, mais un côté, rien n'est possible, et si tu veux, tu peux, comme
ça,
si l'égalité...
Ouais,
complètement américain. Je ne crois pas du tout à l'égalité des chances, je crois pas qu'il suffit... Mais non, quand même.
Vous me rassurez.
Non, pas du tout. Je crois pas qu'il faut se nourrir de quelque chose pour dire, et se dire d'une volonté, que la volonté triomphera. Non, je crois qu'il y a le grand mouvement d'existence, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et tout ça. Après, je crois que oui, puisque on va... je crois que si on a l'idée très précise de la mort, dont on va crever, il y a quelque chose qui du coup se dit, de toute façon ça n'a pas de sens, de toute façon il n'y a que l'errance, alors du coup allons-y,
déglinguons-nous. Je vous avais promis un dandy alcoolique flamboyant, le voici qui nous lit un extrait d'Othello de Shakespeare avec une exquise simplicité.
Most potent, grave and reverend singers, my very noble and approved good masters, that I have taken away this old man's daughter, it is most true. True, I have married her.
C'est Fitzgerald qu'on entend. Il est aussi l'auteur de l'une des plus belles phrases résumant l'existence. Et vous avez choisi cette phrase, Virginie Efira. Bravo. On reconnaît une intelligence de premier ordre à son aptitude à faire coexister dans l'esprit deux idées contraires, tout en continuant à fonctionner. Il faudrait par exemple pouvoir constater que la situation est désespérée, sans pour autant renoncer à vouloir la changer. C'est le début de l'effondrement de Fitzgerald, un recueil de nouvelles autobiographiques paru en 1936, qu'on trouve parfois sous le titre « La fêlure ». Et dans ce recueil, on trouve aussi, de toute évidence, vivre, c'est s'effondrer progressivement. C'est une de mes phrases chouchou. Je vous la livre. Vous n'avez jamais été découragée justement par le fait de savoir que la situation était désespérée ?
Oui, mais si elle est désespérée, c'est que je ne peux pas agir dessus. Alors.
Mais on peut agir parfois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que soit il y a quelque chose qui, s'il n'y a pas de possibilité d'agir, c'est comme s'il y a une acceptation de ça.
C'est très stoïcien.
Peut-être, oui. Non, moi j'avais une sorte de complexe un peu étrange, petite, où j'étais complexée de cette joie. Je me dis, donc je suis ignare. Donc j'ai cherché beaucoup aussi des phrases qui pouvaient dire, non, en fait, c'est peut-être pas juste une preuve de bêtise. J'ai beaucoup aimé Les garçons mélancoliques aussi pour contrebalancer, enfin, voilà. Mais du coup, c'est ça, sur l'idée de me dire qu'elle était justement presque... Bon, du coup, je la valorise maintenant. Avant, je me complexe, maintenant, je me valorise par rapport à ça, mais comme à quelque chose de courageux, quoi. Le courage, c'est-à-dire le courage de vivre, le courage d'accepter la mort, le courage de mettre de la légèreté dans tout ça, d'avoir de la distance sur les choses, enfin...
Oui, c'est la joie tragique, c'est être heureux malgré tout.
Oui.
Bah, bravo. Bravo et merci. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'écouter, oh surprise, une reprise de James Brown cette fois-ci par le Guinéen Sekouba Bambino, It's a Man's 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 World.
Bon fallué. Bon fallué.
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes dans un bal et Virginie Fiora dirige l'orchestre. Et elle a décidé de commencer en nous plongeant, je la cite, avec délectation dans la mélancolie. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. ...1969, Riverman, sur le premier album du Britannique Nick Drake, qui était un grand dépressif et qui est mort à 26 ans d'une overdose de médicaments, qui n'a jamais connu le succès de son vivant, et qui a appelé son album Five Leaves Left, plus que 5 feuilles, il est mort 5 ans après.
Mm-hmm.
Voilà.
Ouais.
Pourquoi ce choix?
Je sais pas, je trouve la chanson d'une... D'ailleurs, beaucoup de choses qu'il a fait, mais cette chanson-là, je l'écoute constamment.
Exprès pour provoquer la mélancolie?
Mais oui, mais parce que là, c'est tout ce qu'elle a de beau, quoi. Parce que, effectivement, ça raconte que les fleurs vont se faner, que l'amour finira, mais qu'il a existé avant. Enfin, c'est, je sais pas. C'est ce tout compris dans un certain temps, comme ça. Parce que les images qu'il me projette, moi, je les trouve plutôt. Enfin, je les trouve même très belles. If you see me walking down the street. And I start to cry each time we meet. Walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private. Cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Don't stop. Votre deuxième antidote musical, c'est ce morceau de 1964, Walk On By, chanté par Dionne Warwick sur la musique de Burt Bacharach. Mm-hmm. Et une mélancolie douce à nouveau. Oui.
Il est question de chagrin d'amour, là.
Oui. Et lui, il fait toujours des choses mineures, majeures. C'est lui qui a écrit, par exemple... Voilà. C'est...
Vous retrouverez ce duo au cabaret. Porte Baccarat, ouais.
Bah ouais, j'aime toutes ces compositions, quoi, vraiment. Alors, ils appellent ça, ils mettent ça, ça s'appelle la easy listening, qui est quand même le mot le plus dégueulasse. Ah oui. Easy listening, genre la musique qu'ils écoutent facilement.
Très dépréciatif.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors que je trouve justement qu'elle a une élégance rare, aussi par sa légèreté.
Si on parle des choses qui vous font rire, Virginie Efira, il y en a plein. Donc en fait, on va pas en parler.
D'accord. Okay.
Il y a Woody Allen et François Damiens dedans.
Ouais.
Il y a une très longue liste. Et il y a une série de sketchs télévisés que nous avons découvert grâce à vous.
Ah, génial.
On écoute un extrait.
Waouh, mais elle est géniale cette maison, maman. Merci. Oh, ça va être trop top.
Oh, mon poêle d'ici. Oh, mon poêle, aller se baigner, maman. Hein. Ouais, c'est trop.
Vous êtes débile ou quoi? Non mais vous avez vu la tronche de la baraque? C'est pourri, tout est pourri ici.
Vous avez aucun goût, c'est pas possible.
Mais non.
Mais non, mais quoi, ma chérie? Tes vacances, elles vont être merdiques, c'est tout. Hein? Arrête de t'emballer dès que tu vois un grain de sable ou un bout de pelouse. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la belle vie, c'est pas ça.
Non mais ta mère a raison, hein. Faut avoir un tout petit peu plus d'ambition, ma grande, hein. Et surtout, faut ouvrir les yeux. Ta mère est fauchée, je suis fauchée, donc on a loué une baraque de merde dans un village de merde et c'est tout.
Oh là là. Des prolos, c'est des prolos.
Des bouffes.
On entend un extrait de Vous les femmes, série humoristique créée interprétée par Judith Siboni et Olivia Côte, diffusée depuis 2007 sur M6 et Teva. Et vous, ce qui vous amuse, c'est le burlesque d'Olivia Côte. Mais souvent, ouais, c'est très visuel, alors ça aurait été difficile.
Oui, oui,
de...
oui, c'est vrai, c'est compliqué. Et mais parce que ils sont passés aussi, il n'y a pas beaucoup de Français sur la BBC aussi, parce que les Anglais ont un humour bien à eux, donc ils acceptent rarement sur grande écoute de la part des Français et tout ça, mais elles ont été diffusées sur la BBC aussi. Non, mais moi je suis complètement. J'aime beaucoup parce qu'elle s'attaque à ce qu'on devrait attendre normalement des femmes, des mères, des amoureuses et tout ça avec du corps aussi, comment le corps doit se tenir. Et Olivier a une manière de broyer ce truc-là et qu'elle a dans la vie aussi. C'est-à-dire, bon, c'est une de mes amies, mais faire la fête avec cette personne, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Alors, je voudrais terminer cette émission en citant quelque chose de très long. C'est le bonus de vos remèdes à la mélancolie. Parce qu'il faut que je les livre aux auditeurs. Alors, c'est sinon, comme remède à la mélancolie, il y a aussi la réflexion et la pratique de l'engagement amoureux, la sexualité dans tout ça, la poutargue, être seule. J'aime bien la phrase de Michelle Pfeiffer dans Le temps de l'innocence, à qui Day Lewis demande si elle aime bien être seule et qui répond oui, tant que mes amis me protègent de la solitude. Oui. L'éducation d'un enfant, sujet souvent banni sous peine d'extrême mièvrerie quand on est actrice, mais grand sujet quand même. Naples et le cinéma génial de James L. Brooks. Pour finir, un titre à nous conseiller. Moi, j'ai adoré Pour le pire et pour le meilleur.
Comment savoir avec Reese Witherspoon.
Ok.
Et aussi son grand film Tendre Passion.
Tendre Passion, très 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 beau. Terminons sur
Tendre
Passion.
Ça raconte de l'amour, c'est merveilleux.
Tendre Passion. Oui. Merci d'être venue dans cette émission, Virginie Efira.
J'étais un peu bordélique, mais c'était très joyeux.
Mais non, c'était très rigolo.
Bon, allez, voilà.
Merci. On peut vous voir en ce moment avec Jean Dujardin dans Un homme à la hauteur de Laurent Tirard et dans Elle de Paul Verhoeven. Et avec un peu de patience, le 14 septembre prochain dans Victoria de Justine Triet, avec aussi Vincent Lacoste et Melville Poupeau. Et après, on n'a pas encore la date, dans Prix de cours d'Emmanuel Cuo avec Gilbert Melki et Marilyn Canto. Chers auditeurs, vous retrouverez la playlist et les remèdes sur la page de l'émission. J'espère que vous éprouvez à présent la même quiétude qu'un coussin invisible. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du réalisateur Arthur Harari.